Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme chaque jour, il est évidemment dans ce studio avec moi, avec son sérieux médical mais aussi sa bonne humeur légendaire. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Une belle présentation, hein, vous avez vu.
Ah, c'est pas mal aujourd'hui, ouais. Bravo. Bonjour ouais. Mélanie, bonjour.
J'ai tapé
à tous.
Haut direct, là, je me suis dit.
Pour une fois.
Ouais, ce mercredi, il faut y aller fort. Allez, au programme. Aujourd'hui, on vous propose un éclairage sur un sujet encore très tabou, les maladies de l'érection. Car oui, quand un homme rencontre des difficultés de ce côté-là, il y a bien souvent une cause, une vraie pathologie sous-jacente. Et puis surtout, il y a encore de trop nombreuses questions autour de ce trouble, de ces troubles. Est-ce réellement un problème de l'homme d'âge mûr? À partir de combien de pannes doit-on consulter? Comment ça se traite? Vous verrez que la petite pilule bleue est loin d'être la seule solution. Nous ferons le point sur tout cela avec un spécialiste du sujet, c'est le professeur Éric Haller, il est chirurgien vasculaire à Paris. Ensuite, dans notre séquence Les Bobos du quotidien, Jimmy nous propose aujourd'hui de nous décrypter les globules rouges, celles que nous avons tous dans notre sang. Quel est leur rôle quand leur taux est bas ou trop élevé? Que se passe-t-il? Comment régler ça? Il nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de simulation lors des rapports sexuels.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour démarrer ce magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore celles que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Et justement, celle que je vais vous lire tout de suite, c'est la question de Loïc qui nous l'a laissée sur le compte Instagram de l'émission Sans Rendez-vous. Il demande « J'ai été hospitalisée et j'ai eu plusieurs complications au niveau de l'abdomen. On m'a dit que je risquais une éventration et on m'a parlé d'une sorte de film de prothèse pour que mon ventre soit plat. Je ne comprends pas ce que c'est, pouvez-vous m'en dire plus ?» Alors pour vous éclairer Loïc, sur ce problème assez pointu pour le coup, nous avons interrogé pour vous le docteur Sami Chaibi. Il est chirurgien digestif à l'hôpital de Creil.
Le chirurgien lui a probablement proposé la cure soit d'une hernie, soit d'une éventration avec la mise en place d'un matériel de renfort prothétique. En fait, c'est tout simplement une prothèse qui va être apposée chirurgicalement sur une zone en fait fragile de l'abdomen qui va permettre de combler un défect, c'est-à-dire une zone plus fragile en regard de la gaine abdominale et qui permet indirectement de retrouver peut-être un ventre plat, mais surtout de renforcer la gaine musculaire et d'éviter les complications à type d'étranglement, puisque souvent ces défects de paroi qui sont soit des hernies ou des éventrations, c'est comme ça qu'on les appelle lorsqu'elles surviennent au décours d'une chirurgie, peuvent contenir de l'intestin. Ces intestins peuvent souffrir d'un étranglement et en prévention de la survenue de cet événement, on positionne une prothèse, soit par voie ouverte, soit avec la caméra, par célioscopie. Et c'est un matériel qui est une espèce de film, effectivement, très bien intégré par le corps, sans risque de rejet, avec un risque d'infection qui est très très faible.
Voilà, c'était les précisions du docteur Chaibi au micro de Barbara Silvera Sonigo. Jimmy, on va prendre une autre question pour vous, celle-ci, celle de Maude. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, Mélanie. J'ai mon bébé qui a 6 mois. Ces temps-ci, il tousse énormément. Il a une toux rauque et ça m'inquiète beaucoup. Est-ce qu'un bébé, à votre avis, peut attraper le Covid? Est-ce qu'on peut lui faire un autotest ou pas? Merci beaucoup de votre réponse. Au revoir.
Alors Jimmy, pour commencer, une question simple. Un bébé tout petit, apparemment, peut-il avoir le Covid?
Oui, les enfants peuvent avoir le Covid et peuvent le transmettre. Et on a trop sous-estimé leur rôle dans la propagation de l'épidémie. On s'est rendu compte que les chiffres se sont franchement améliorés à chaque fermeture d'école. Et donc, évidemment qu'ils participent à la propagation du virus. Alors, en ce qui concerne les enfants, on a des données qui sont à l'heure actuelle plutôt rassurantes. Les bébés feraient des formes très légères, souvent asymptomatiques, ou qui passeraient simplement avec un petit nez qui coule, de la fièvre, une petite tout sans grandes conséquences pour l'instant, sachant qu'il faudra encore attendre quelques mois, quelques années avant d'évaluer d'éventuels impacts sur leur état de santé, raison pour laquelle il faut que nous les adultes nous faisions vacciner.
Alors elle évoque une toux rauque chez ce bébé, est-ce que ça peut être un signe de Covid? Vous avez dit que la plupart du temps ce sont des formes asymptomatiques ou un petit nez qui coule, mais ça là, la voix rauque, la toux rauque, ça peut être un signe de Covid?
Alors ça peut être n'importe quelle infection respiratoire, hein, quelle qu'elle soit, un enfant de 6 mois a le droit de choper une rhinopharyngite,
une laryngite hein,
exactement.
La toux rauque, moi ça me fait
la
penser à ça.
La toux rauque globalement elle fait penser à la laryngite, ouais. En particulier si elle est nocturne, sur 3 à 4 heures du matin, s'il est au cortisol qui est une hormone du stress qui va être une hormone anti-inflammatoire.
Ça, qui va baisser plus la nuit en fait.
Exactement, qui va baisser vers 3-4 heures. Comme il y a moins de cortisol et qu'il y a cette petite infection virale, eh bien les enfants vont tousser avec une toux rauque. C'est un peu comme un chien qui aboie ou un phoque. C'est une toux très particulière.
Vous, c'est quoi là ce problème là?
C'est le problème d'orthophonie et d'élocution.
Il n'y a pas d'inflammation là.
Et c'est très fréquent chez l'enfant. Ça s'améliore quasiment spontanément et parfois on a recours aux corticoïdes justement pour éviter que cet enfant tousse de trop.
Alors, l'autre question de cette maman, c'est de savoir, donc ce bébé, admettons, j'en sais rien, je ne sais pas quel âge il a, elle ne s'est pas précisé, mais il aurait 3 mois, on va dire. Est-ce qu'on teste les enfants de cet âge-là? Parce que bon, le petit coton-tige dans le nez, on y est tous passés, ce n'est pas très agréable. Pour un bébé, on imagine encore plus. Un autotest, peut-être, ça vaut le coup, je ne sais pas.
Alors, autotest, je déconseillerais parce que la technique est un peu hasardeuse et les résultats sont moins fiables. Moi, je pense que s'il y a un doute et s'il y a en tout cas dans l'entourage, il y a quelqu'un de fragile dont on craindrait une dissémination du virus, c'est aller faire un test au PCR au laboratoire. Alors, évidemment, on ne va pas enfoncer le coton-tige dans le nez du bébé, ça va simplement se faire en salivaire.
Dans la gorge, un peu, exactement. Ouais,
comme quand lorsque vous amenez votre enfant chez le médecin traitant pour regarder les amygdales. Donc, c'est indolore, ça se fait très vite.
C'est pas invasif, exactement.
Ouais. Et ça permet de savoir s'il faut isoler l'entourage, même si encore une fois les données sont plutôt rassurantes pour un bébé de 6 mois qui aura le Covid.
Bon, de toute façon, quand on a un petit bébé comme ça, vous l'avez dit tout à l'heure, mais le mieux c'est de toute façon que les adultes, les proches qui l'entourent ce bébé, puisque quand même bébé dit fragile, c'est que tout le monde soit vacciné.
Exactement, on n'est pas à l'abri de formes graves chez des nouveau-nés, donc la seule façon de se débarrasser de ce foutu virus, c'est pas la pensée magique, c'est pas l'homéopathie, c'est pas la chloroquine, je le dis assez souvent, c'est la vaccination.
Vous le dites tous les jours en ce moment presque.
Mais oui, mais on a besoin parce qu'on atteint un peu un plafond de verre, ouais. On a du mal à aller encore plus.
Il y a plus de
vite.
Créneaux que de gens qui arrivent pour les vaccins.
Et donc
hein,
il y a l'été qui arrive, faites votre première dose. La deuxième dose, vous pouvez la faire sur votre lieu de vacances, vous pouvez la décaler un petit peu, mais faites-vous vacciner. C'est comme ça qu'on s'en sortira.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va passer à notre grand dossier du jour consacré aux maladies de l'érection qui peuvent toucher des hommes dans toutes les tranches d'âge. Notre invité du jour le dit, si vous êtes concerné, ne vous contentez pas du « c'est dans la tête, ça passera ». La cause peut bien sûr être psychologique, mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas hésiter à consulter pour trouver des solutions. On va tout vous dire sur ce sujet tabou. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Éric Allaire. Bonjour.
Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy.
Vous êtes chirurgien vasculaire, membre de l'Académie nationale de chirurgie et vous êtes également l'auteur du livre Guide de l'impatient, les maladies de l'érection, dont on va parler aujourd'hui, un très joli ouvrage. Alors pour démarrer, on va parler d'un constat. Les troubles de l'érection au sens large, c'est un sujet tabou, mais bien, bien plus fréquent qu'on l'imagine.
Oui. 10% de formes graves, c'est-à-dire que quand on regarde une foule de
messieurs,
de 1000 hommes, il y en a 100, c'est quand même beaucoup, qui n'ont pas d'érection suffisante pour avoir des rapports sexuels satisfaisants. Ces 100 hommes peuvent prendre des médicaments et ces médicaments peuvent être inefficace. Et ça, c'est quelque chose qui est peu connu et qui a un retentissement considérable dans la population.
Et justement, c'est pour ça que vous avez voulu écrire ce livre, parce que vous considérez que la prise en charge des troubles de l'érection chez l'homme, évidemment chez l'homme, n'est pas optimale et qu'on va parfois se contenter de donner une petite pilule, un traitement, sans chercher à aller un peu plus loin et comprendre le véritable problème.
Oui, tout à fait, Jimmy. Aux États-Unis, on considère que 80% des dysfonctions érectiles sont dues à une maladie. Et en France, on pense que seulement 20% sont dus à une maladie. Alors, je ne sais pas qui a raison. Hein.
Mais la vérité, peut-être au milieu, quand même.
Au milieu, ouais. Dans l'Atlantide, une île imaginaire entre les deux continents, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, le message principal de ce livre, c'est que la dysfonction érectile, ça va vous surprendre, mais ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme.
Oui.
C'est comme dire, tout à l'heure, cette dame, ma fille tousse. Bon, elle tousse pourquoi? La médecine, elle commence avec le pourquoi. Et quand, face à un symptôme, faire de la médecine, c'est dire, ok, je constate, le patient vient avec ce problème, qui est son problème, on va
qui
le résoudre.
Qui est une panne d'érection, là, en l'occurrence.
Voilà. Mais pour résoudre la panne d'érection, il faut comprendre pourquoi et donc quelles sont les maladies derrière. Et donc faire des examens, par exemple. Pour le savoir.
Alors justement, on va reprendre les bases avec vous. Déjà comprendre comment ça marche, l'érection. Qu'est-ce qui provoque la dureté d'un pénis?
Alors, c'est imaginer un ballon. Vous voulez gonfler un ballon et que, pour le match, le ballon soit dur. Vous avez une pompe, ça c'est l'artère, les artères qui apportent le sang dans ce qu'on appelle les corps caverneux, qui sont deux cylindres parallèles et qui constituent l'essentiel du pénis. Donc le sang arrive par les artères dans ces corps caverneux. Et qu'est-ce qui fait que le sang tout d'un coup se met à arriver? C'est les idées qu'on a, c'est le plaisir de la vie, les appétits sexuels. Ce sont aussi des réflexes. Il y a des érections la nuit, il y a des érections le matin qui sont complètement involontaires, qui d'ailleurs peuvent être des érections chez le bébé. On sait que ça commence in utero dès la 28e semaine.
L'érection, ça démarre déjà pendant la grossesse,
ouais,
en fait, du petit garçon.
Ce sont des petites turgescences qui se passent. Donc, il y a l'aspect érotique de l'érection, puis il y a l'aspect un petit peu automatique. de l'érection. Donc ça, c'est l'artère commandée par le cerveau. Et puis, il faut que votre ballon conserve l'air. Et
oui.
S'il y a des fuites, eh ben, il ne va pas devenir dur. Et en fait, quelles sont les fuites? Bien, ce sont des veines qui, normalement, font sortir à la fin de l'érection le sang du pénis, hein, sinon ça serait toujours
une vidange. Il
y a une vidange, ouais, exactement. Bon, il faut que ça s'arrête. Eh bien, dans certaines situations, qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on le pense, en réalité, eh bien, cette vidange n'est pas contrôlée, elle est permanente. Et donc, vous gonflez le ballon avec le désir.
Et il se vide un petit peu par des petits trous comme ça.
Et le ballon n'est pas dur parce qu'il y a des fuites. Ouais. Ce sont les fuites veineuses.
Bah finalement, c'est quelque chose d'assez compliqué, hein, l'érection. Est-ce que d'ailleurs, l'érection est plus compliquée pour l'homme que pour les autres mammifères, par exemple? Est-ce que nous sommes des
désavantagés parce qu'il n'y a pas d'os dedans.
C'est des Avengers du zizi, peut-être.
Vous posez une question passionnante, qui est une question d'évolution et de la fonction de l'érection. Pourquoi est-ce que les hommes sont avec quelques animaux, les rares mammifères à avoir non pas un os, qui est quand même assez pratique, mais un système qui ressemble à celui du ballon que nous avons expliqué. Bon, il y a plein d'hypothèses anthropologiques. Je ne suis pas savant dans ce domaine, mais c'est passionnant à lire. Il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Et puis, il y a la station debout. Ouais. En fait, le fait de passer de la position à quatre pattes pour avancer dans la nature à la position debout a complètement modifié la géométrie du bassin des femmes. Et donc, a nécessité, par exemple, que l'espèce humaine ait un pénis plus long que les autres espèces, contrairement aux idées reçues, notamment certains animaux qui sont gratifiés d'un organe particulièrement performant, ce qui n'est pas vrai.
D'accord. Bon, écoutez, c'est très intéressant, en tout cas. Mais bon, revenons à nos humains aujourd'hui, on va dire à nos hommes aujourd'hui. Est-ce que la taille et le diamètre du pénis rentrent en compte dans la qualité de l'érection ou pas du tout? Ils aimeraient bien tous en avoir un très très gros et très très large, mais est-ce que ça compte finalement?
Alors là, je vais beaucoup décevoir peut-être, j'en sais rien. Il y a deux réponses à ça. D'abord, avoir un très gros pénis, bah, c'est pas si pratique, parce qu'il faut remplir le ballon, et c'est ça peut être très difficile. Donc dès qu'on a une petite déficience de ce système d'arrêt, d'entrée et de sortie du sang dans le pénis. Si on a un très gros pénis, c'est très compliqué d'avoir une fermeté de l'érection. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est ce que les partenaires pensent de la taille du pénis. Alors c'est très intéressant. Les partenaires plutôt jeunes ne sont pas extrêmement attachés à la taille, ne considèrent pas que ce soit un critère qui permette d'anticiper le plaisir. Les femmes plus expérimentées, un peu plus. Mais en tout cas, les femmes sont beaucoup moins angoissées sur la taille du pénis de leur partenaire que ne le sont les hommes.
Oui. Professeur Allaire, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer cette émission sur les maladies de l'érection. Et oui, on va vous détailler ce qui est vraiment pathologique ou non, parce que parfois les hommes ont du mal à s'évaluer objectivement. Eh bien nous, on va vous donner quelques repères pour y voir plus clair. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Éric Allaire. Vous êtes chirurgien vasculaire et l'auteur du livre Guide de l'impatient, les maladies de l'érection. Alors justement, on va passer à ce qui est normal ou pas, aux signes qui doivent faire penser qu'il y a peut-être une réelle dysfonction érectile. D'abord, d'un point de vue général, on est d'accord, les hommes et même les petits garçons, vous le disiez, dès leur plus jeune âge, c'est vraiment même indépendant de la sexualité, il y a un truc automatique. Pourquoi, par exemple, les petits garçons ou même les hommes ont des érections comme ça le matin ou même la nuit?
Mélanie, j'aimerais beaucoup connaître la réponse à cette question. Je pense que ça vaut un prix Nobel. Il y a des hypothèses. C'est une machine qui est très, très particulière, le pénis, parce qu'il n'y a pas de... Il y a des variations de circulation qui sont extrêmement importantes. Alors que dans le corps, en général, c'est relativement constant. La deuxième chose, c'est que c'est le seul endroit où le sang est capté à un moment et reste prisonnier pendant tout le temps de l'érection. Et mais moi, je ne vois pas d'autres secteurs du corps humain qui fonctionnent de la même manière. Donc, c'est très particulier, c'est un mystère. Et l'idée, c'est que toute machine, ça s'entretient. Et donc, il faut de temps en temps déployer
le système. C'est l'entraînement, l'érection matinale, alors. C'est comme
ça,
un entraînement.
C'est un peu l'entraînement du sportif.
On avait une question il y a quelques jours là-dessus, justement, sur si à un moment donné, les érections matinales disparaissent ou sont moins présentes. Est-ce que ça, c'est un signe d'alerte?
Ah oui. Ouais. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Les érections matinales sont un signe de bon fonctionnement, certes, du système érectile, mais probablement de la santé en général. Et la disparition des érections matinales est vraiment un signe d'alerte. Attention, il faut consulter son médecin, voilà. Lui demander son avis. Hein, faut pas paniquer, regarder tous les matins, etc. Mais disons que si pendant 3 mois, on n'a pas d'érection le matin, il faut sûrement consulter. Oui.
Et puis vous connaissez l'expression, Mélanie ?
Ah non, je suis sûre que vous allez me surprendre encore une
gourdin
fois.
Gourdin du matin, pipi sans les mains.
Oh,
donc c'est plutôt pratique.
Très... Mais... Elle est délicieuse, celle-là, Jimmy, est... magnifique.
C'est gratuit, vraiment. Je voulais la
saison,
placer, je voulais la dire absolument. Est-ce qu'on peut aussi rassurer les parents qui auraient des enfants qui vont se réveiller avec une petite érection ? Ça n'a pas de rapport avec une stimulation sexuelle et ça va devenir de plus en plus fréquent, notamment chez les adolescents. C'est pas pour autant qu'ils sont des voilà.
Ah Jimmy, merci pour cette question. Si vous regardez sur les forums, il y a des mères, souvent les mamans, qui écrivent. Mon fils a des érections le matin, qu'est-ce que je fais ? On imagine la panique de
cette Parce que c'est maman. Un pervers ou je ne sais quoi, elle s'inquiète de ça, oui, vraiment.
Ça n'a rien à voir avec la sexualité, ça n'a rien à voir
c'est
avec
réflexe,
le désir
c'est automatique,
sexuel.
Ouais.
C'est exactement ça. Donc, il ne faut certainement pas s'en inquiéter. Non seulement ne pas s'en inquiéter, mais constater que c'est un phénomène tout à fait normal.
Que la mécanique tourne. Alors, à partir de quel âge on peut avoir un problème d'érection ? On a l'impression, comme ça, dans le grand public, que c'est parfois surtout un problème d'homme mûr, on va dire. Je crois que c'est complètement faux. Mais à partir de quand on considère qu'il y a un problème, justement, d'ailleurs ? Une érection qui ne marche pas une fois, bon, ce n'est pas grave. Quoi.
Parlons âge d'abord. Mélanie, les patients les plus jeunes que je vois... ont 18-20 ans.
Oui, tout jeune, oui.
Et bon, là, on est entre nous, c'est extrêmement joyeux, mais il faut savoir que certaines études suggèrent que 1 à 4% des hommes de moins de 25 ans n'ont pas d'érection qui leur permette d'avoir des relations sexuelles. Non pas parce que c'est dans leur tête, donc il ne faut pas les envoyer chez le psychiatre, même s'ils ont besoin d'une aide, parce que vous imaginez les perturbations que ça pose. Il faut leur faire des examens, et une fois sur deux, on trouve ces fameuses suites, c'est-à-dire le ballon percé. Et c'est dramatique. Là aussi, on parlait de 1000 hommes, vous allez à la sortie d'une fac, vous allez sur les terrasses de café qui ouvrent à nouveau maintenant, vous voyez 1000 hommes, et bien 10 à 20 vivent en enfer.
Ah ouais, donc pas d'érection satisfaisante.
Aucun interlocuteur, et c'est dramatique.
Et vous l'avez dit, donc on les envoie pas chez le psychiatre en disant que c'est dans leur tête, en tout cas, pas à cause de ça.
Ouais.
Mais du coup, on fait des examens. Quel type d'examen pour savoir s'il y a un problème organique ?
Alors, l'examen clé, et si aujourd'hui, je souhaite faire passer peut-être un message
Bien
grâce
sûr.
À votre aide à tous les deux, c'est l'échographie Doppler du pénis.
Oui. Voilà.
Pourquoi ? Parce que c'est un examen qui permet de voir l'entrée du sang dans le pénis et sa sortie. Donc on voit, si on reprend l'histoire du ballon, c'est on regarde comment marche la pompe et on regarde s'il y a des trous. Et il suffit de faire cet examen pour pouvoir dire à cet homme qui a 20 ans, qui en général, pourquoi est-ce qu'il vient à 20 ans ? Parce que, bon, à 14 ans, il n'a pas d'érection. À 15 ans, 16 ans non plus, mais est-ce qu'il sait qu'il n'a pas d'érection ? Comment est-ce qu'on compare à quoi ? Donc beaucoup disent, mais il a fallu que je rencontre une femme ou un homme et que j'essaie et que là, on me dise non, ça ne marche pas. Donc, il faut faire cette échographie Doppler. Peut-être, je ne sais pas, plus loin, on aura l'occasion de préciser comment ça se fait, mais c'est
l'examen de
clé,
référence,
quoi.
En tout cas, pour
éventuellement tous les âges,
voir ce problème-là. Ouais. Professeur Allaire, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous, on revient dans un instant et on va poursuivre notre dossier sur les maladies de l'érection. Et si on vient de voir que les causes peuvent être diverses, les traitements possibles aussi sont nombreux. Il n'y a pas que la petite pilule bleue pour aider les hommes concernés, bien d'autres solutions existent. On va vous les détailler, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous, il est toujours avec nous en studio, c'est vous professeur Éric Allaire, je rappelle que vous êtes chirurgien vasculaire, vous êtes spécialisé dans la chirurgie de la dysfonction érectile, alors on en parlera de la chirurgie, mais avant ça, on ne peut pas parler de problème d'érection sans faire un point sur ces médicaments comme le Viagra, le Cialis et tant d'autres qui ont été une révolution dans ce domaine. D'abord, comment ils agissent grosso modo ces médicaments pour qu'on comprenne une fois pour toutes ?
Oui, en 98, vous l'avez dit, ça a été la révolution. Alors on s'est dit du coup, bon, c'est plus la peine de faire de recherche parce qu'on a tout. C'est même plus la peine de chercher à comprendre pourquoi un patient a des problèmes d'érection, puisqu'on va lui donner la petite pilule, puis c'est réglé. Et en fait, ça a été une folie du moment, parce que du coup, on n'a plus fait de médecine. On n'a plus fait de médecine puisqu'il suffisait de donner le petit cachet pour soulager. Donc on n'a plus cherché à comprendre. Et du coup, c'est devenu une maladie. Alors qu'à nouveau, c'est un symptôme. C'est-à-dire qu'on commence par se poser la question
pourquoi
est-ce que ça ne marche pas ? Voilà. Alors, la petite pilule bleue, on s'est aperçu que dans un tiers des cas, ça ne marche pas. Et évidemment, ce sont dans les formes les plus sévères.
Oui.
Donc, vous imaginez la détresse de ces patients chez qui on dit, à qui on dit, écoute, ça ne marche pas, on n'a rien pour toi, quoi. Donc, il y a cette détresse. Deuxièmement, ça a été aussi un problème parce que il est connu maintenant qu'un problème d'érection qui se prolonge chez un homme de 30-40 ans, c'est l'annonce de problèmes de santé futurs, d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral en particulier.
Donc ces traitements, on les connaît en tout cas de nom, tout le monde a déjà entendu parler, mais il y a d'autres techniques comme des auto-injections intracaverneuses pour l'érection. Alors, rien que dit comme ça, ça fait peur. Est-ce qu'il y a des patients qui l'utilisent
dans la verge,
zizi, quoi.
Ouais. Ouais. Ça semble comme ça pas évident, mais ça permet à de nombreux patients d'avoir une vie sexuelle complètement préservée. Et c'est encore...
C'est quoi qu'on injecte dans la verge, du coup ?
Alors, actuellement, c'est un médicament qui s'appelle l'Edex. C'est une prostaglandine, une petite molécule extrêmement compliquée avec des petits bras partout, mais qui fait que les artères se dilatent.
Est-ce que parfois vous prescrivez de la testostérone ? Si jamais il y a un manque de testostérone, une maladie hormonale, est-ce que c'est des choses qui se font ?
Bien sûr. Nous avons dit que 30% des patients ne bénéficient pas de ces médicaments comme le Viagra. Eh bien, l'une des causes, c'est l'insuffisance en testostérone. Un homme perd 1% de sa production de testostérone chaque année, donc au bout d'un certain temps, ça...
Il n'y a pas que nous qui avons des problèmes d'hormones, finalement, les hommes aussi.
Oui, on a parlé d'andropause.
C'est plus tard, en général, que nous, mais bon.
C'est plus tard, c'est moins constant, c'est seulement 50% des hommes, mais c'est associé à des défauts de testostérone, et on peut prescrire de la testostérone, ce qui rend le médicament Viagra efficace.
Bon, et donc parfois, vous êtes amené à intervenir, vous nous avez parlé tout à l'heure des fuites, des fuites dans les veines au niveau du pénis, où ces veines, elles peuvent être bouchées. Ces fuites au niveau du pénis, vous les réparez comment ? Vous allez boucher au niveau chirurgical, c'est ça ?
Ah, le principe est très simple. C'est effectivement boucher les petits trous, mettre des rustines à la surface
L'homme est endormi, ça se passe au bloc, comment ça se passe ?
Ce sont des opérations dont... Il existe une tradition assez ancienne qui était antérieure au Viagra, mais qui ne marchait pas très bien. Mmh. Donc on a repris complètement tout ça avec des critères diagnostiques extrêmement précis. Et puis des techniques modernes au bloc opératoire.
Vous faites quoi concrètement ?
Alors on bouge les artères en mettant un produit dedans, ça s'appelle des embolisations. Mmh. C'est une technique qui est utilisée dans énormément de domaines de la santé. Et puis avec de la microchirurgie, on ligature les toutes petites veines dans cet espace très compliqué qu'est la surface du pénis.
Un mot peut-être de prévention, est-ce qu'on évite, je pense que oui, tout ce qui est sur Internet, les traitements qu'on peut acheter comme ça sans ordonnance.
Parce que des remèdes miracles, il y en a sur Internet.
Il faut faire très très attention.
Comment on vérifie que c'est une arnaque, justement ?
On ne peut pas.
Ouais.
Donc il faut vraiment passer par le pharmacien. Il y existe des pharmacies en ligne structurées. Il y a des sites Internet bien reconnus avec des médecins qui prescrivent. Si on n'ose pas aller chez son médecin, chez le pharmacien, on peut avoir recours à ça. Mais surtout pas de... Même de Viagra vendu comme ça. Et quant aux remèdes miracles, aux poudres de perlimpinpin, en général, elles ne marchent pas. Si elles marchent, c'est que c'est du Viagra dedans.
Et du coup, dernier message, vous l'avez dit, il faut arrêter de croire que tout se passe dans la tête. C'est peut-être ça qu'on doit retenir.
Ah oui, tout à fait, Jimmy. Ça, c'est... Il y a trop de drames. Je dis bien de drames. Les jeunes patients qui viennent, à qui on a dit pendant 5 ans, 10 ans, puis les mêmes 30 ans plus tard, vie sexuelle, vie personnelle complètement annihilée, brisée, parle de suicide.
Ça peut être dans la tête, mais pas que, c'est ça.
Je me rappelle, l'un des premiers patients que j'ai opéré m'a dit « si ça ne marche pas, je me suicide ». Et cette fois-là, je ne me raterai pas.
Donc consultez, car des solutions existent.
Il ne faut pas... Absolument.
Vous avez des solutions quasiment pour tous les hommes, de toute façon.
On estime que, justement, en faisant les diagnostics, probablement on peut apporter une solution à 95% des situations.
Très bien, bah écoute, on va terminer sur cette touche positive, 80%, au moins on peut trouver des solutions. Merci beaucoup professeur Haller, et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre, Guide de l'impatient, les maladies de l'érection. Merci beaucoup professeur.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Jimmy nous dira tout aujourd'hui sur le rôle des globules rouges dans notre organisme et sur les différents problèmes de santé qui peuvent être liés à ces cellules de notre sang. C'est dans quelques minutes et c'est bien sûr sur Europe 1. Votre émission Santé, bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les Bobos du quotidien avec un éclairage qui s'annonce passionnant du docteur Jimmy Mohamed sur les globules rouges. Savez-vous à quoi servent ces cellules de notre sang? Quand leur taux est trop élevé ou trop bas, que se passe-t-il dans notre organisme? Comment remédier à tous ces problèmes? On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Barbara Silvera Sonigo.
Je confonds toujours les globules rouges avec les globules blancs.
C'est magique les globules rouges.
À quoi servent les globules rouges? À transporter les globules blancs. Les
globules rouges, c'est ce qui donne déjà la couleur à notre sang.
C'est les globules dans le sang qui transportent l'oxygène.
Et de récupérer le dioxyde de carbone pour ensuite faire l'échange au niveau des poumons et nous permettre de vivre.
Elles sont indispensables ces globules.
Quand on a une carence, je pense qu'on doit être très fatigué.
On est anémié, on manque d'énergie, on manque de fer.
Ça peut apporter des problèmes assez graves, je pense, style des atrophies, que ce soit musculaires ou sur les autres organes.
Si on a des globules rouges plus petits, ça peut donner une maladie de sang qui s'appelle anémie.
Une légère carence ne va pas tuer quelqu'un, mais une carence très forte, je pense, peut avoir des conséquences très graves.
Bon, professeur, non, je plaisante, docteur Jimmy Mohamed, un peu de biologie pour démarrer cette séquence. Les globules rouges, c'est quoi précisément? Moi, j'ai un souvenir de petit bonhomme dans le dessin animé C'est la vie. Je ne sais pas si vous vous rappeliez de ce truc-là.
J'étais pas né à cette époque.
Bon, allez-y.
Alors, c'est vrai que les globules rouges, dit comme ça, c'est un peu chiant, mais on se rend compte que les réponses dans le micro-trottoir sont plutôt bons et les gens savent globalement ce que c'est. Alors, c'est les hématies qui ont pour mission de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus et qui vont récupérer en retour le dioxyde de carbone pour l'éliminer lors de l'expiration. Ces globules rouges, eh bien, ce sont les cellules les plus nombreuses dans le plasma. Je vous donnerai un seul chiffre. Vous en avez 5 millions par millimètre cube de sang.
Bah
donc, c'est
même
dire à quel point vous en avez beaucoup et à quoi ça sert aussi.
Bon, très bien. Ce n'est pas le sujet du jour, mais juste pour notre culture, Jimmy, puisque vous êtes sur une bonne lancée.
Évidemment.
Là. C'est quoi les globules blancs?
Les globules blancs, c'est ce qu'on appelle les leucocytes. C'est des cellules qui servent à lutter contre l'infection. Et je vais vous donner un autre chiffre.
C'est nos défenses immunitaires.
Exactement.
Hein,
c'est les petits soldats qui vont vous aider à lutter contre les infections virales, bactériennes ou même des infections parasitaires. Et puis, je vous donnerai un seul chiffre. Pour un globule blanc, vous avez 50 plaquettes et vous avez 1000 globules rouges.
Ah oui.
C'est vous dire à quel point ces globules rouges sont nombreux et les autres minoritaires.
Écoutez, grâce à vos chiffres, on se fait des petits dessins, comme ça on les imagine dans notre sang. On va revenir aux globules rouges. Comment on évalue si tout va bien de ce côté-là? Une prise de sang suffit, c'est ça?
Oui, exactement, parce que le globule rouge va contenir une protéine qu'on appelle l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, elle est capable de fixer l'oxygène. Et c'est ce qui va donner sa couleur rouge au sang. Et vous avez d'ailleurs sur cette membrane de l'hémoglobine des antigènes qui vont déterminer les groupes sanguins A, B, O ou AB. Et une simple prise de sang, une numération de formule sanguine,
NFS.
Vous permet, exactement, NFS pour les intimes, permet justement de savoir si vous avez suffisamment de globules rouges et en particulier d'hémoglobine.
Bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'on a peu de temps, Jimmy. Si j'ai un taux de globules rouges trop bas, ça peut être à cause de quoi?
Bah, c'est de l'anémie, en règle générale. L'anémie, elle peut être liée globalement à une carence en fer qui peut venir de deux raisons. La première, d'un apport insuffisant. Vous ne mangez pas, vous êtes dénutri. Et puis, lorsque vous avez des saignements abondants au niveau du tube digestif, comme un cancer du côlon, ou au niveau gynécologique, des règles trop abondantes vont entraîner un manque de fer et une anémie par carence en hémoglobine.
Et donc ça peut soigner en prenant du fer, j'imagine.
Exactement, on prend du fer et surtout on traite la cause pour savoir d'où le robinet fuit, pour savoir est-ce que vous avez un ulcère qui saigne, un cancer qu'il faut enlever ou peut-être adapter un traitement avec une pilule.
Bon Jimmy, je sais que vous êtes capable de le faire parce qu'il faut le faire très vite. Si le taux pour le coup est trop élevé de globules rouges, c'est quoi?
C'est ce qu'on appelle la polyglobulie, c'est une maladie.
On a pris plein de mots avec vous
et
aujourd'hui.
Oui,
hein,
polyglobulie, ouais. Qui fait que le sang va être très visqueux, va circuler moins facilement.
Quand c'est visqueux, ça se bouche.
Et ça se bouche. Et vous avez deux symptômes. Le premier, c'est que vous avez le visage qui est plus rouge parce qu'il y a plus d'hémoglobine. Je vous ai dit que c'est ce qui donnait la couleur rouge. Et puis, il y a un truc un peu bizarre, c'est le prurite aquagénique. C'est-à-dire que ça vous gratte au contact de l'eau.
Mais
et
non.
Ça, c'est un signe spécifique d'une polyglobulie particulière qu'on appelle la maladie de Vaquez. C'est la maladie la plus fréquente en termes de polyglobulie.
Franchement, Jimmy, je ne sais pas quoi dire. C'était passionnant. Merci beaucoup pour toutes ces explications.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo dans quelques toutes petites minutes. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous comme tous les jours depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Camille. Une question simple, je dirais, je vous la lis. Je simule très souvent pour ne pas vexer mon mari, mais j'aimerais bien lui en parler pour enfin prendre du plaisir. Comment est-ce que je dois faire ? Catherine, Camille parle de son mari avec qui finalement elle ne prend pas vraiment de plaisir. Ils sont en plus mariés, elle le dit, donc je n'ai pas l'impression que ce soit un couple tout jeune. Pourquoi simuler comme ça et ne lui en avoir jamais parlé ?
Eh bien, tout simplement parce qu'on veut faire du bien à l'autre. Et comme on veut faire du bien à l'autre, on lui donne
tout. C'est de l'altruisme, la simulation ?
Oui,
c'est ça ?
Oui, ouais. En partie. Ce n'est pas que ça. C'est aussi narcissique parce qu'on ne veut pas se faire passer pour quelqu'un d'incapable. Mais c'est aussi de l'altruisme. C'est-à-dire que c'est dire que c'est merveilleux. Je ne sais pas, son mari lui fait voir un film qui est nul de son point de vue. Mais elle va dire, ouais, c'est super, etc. Parce qu'il a pris la décision de choisir le film devant le cinéma et que lui dire que son film était naze.
Son choix était naze.
Voilà, bien c'est assez désagréable, donc c'est une façon de flatter l'autre. Et on le fait assez naturellement, si on a un peu de générosité, on le fait assez naturellement.
Dans la vie de tous les jours, même dans la sexualité.
Oui, dans la vie de tous les jours. Et donc, de fait, c'est dur hein, si vous êtes avec quelqu'un qui dit « Non, moi, je t'ai pas trouvé terrible. Ah, non, mais c'était pas terrible ce que tu as fait cuire. Ah, mais non, ça peut mieux faire. Hein, peut mieux faire. »
Ce film était à chier.
Voilà, exactement. Vous imaginez si on était avec cette
sincérité totale. Ouais.
Ce serait insupportable, absolument insupportable. Donc, on est toujours un peu flatteur de l'autre, pour être aimé de l'autre, donc à nouveau c'est très narcissique, et puis pour asseoir la relation, pour la sécuriser, donc c'est assez classique. Et évidemment que comme les femmes ont tout le loisir, elles savent très bien que les hommes sont obsédés par l'idée de les faire jouir, donc dans la mesure où elles sont en panne, elles veulent pas rester en panne trop longtemps parce que elles, du coup, ça leur met une angoisse de performance qu'elles n'atteignent pas, et les hommes, ça leur renvoie une incompétence à les faire jouir. Donc du coup elle simplifie et pour elle et pour l'autre par le biais de la simulation.
Et cette simulation, elle est plutôt, c'est l'apanage des femmes ou est-ce que des hommes peuvent aussi simuler, enfin je sais pas, simuler une érection, ça me semble un peu compliqué.
Alors on simule pas une érection, mais on simule un plaisir qui amène à une éjaculation ou parfois pas d'éjaculation d'ailleurs, parce que ça permet de clore quelque chose qui est un peu poussif. Donc oui, les hommes simulent tout autant que les femmes, en disant ouais c'est super, enfin en laissant penser que c'est super, y compris par exemple dans la fellation où ils vont émettre des râles, etc., alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, souvent, au nom de la générosité, ils passent à autre chose, la pénétration, alors qu'en fait, pour eux, rien n'advenait.
Mais elle dit quand même que donc elle simule très souvent, je veux dire simuler une fois de temps en temps, pourquoi pas, admettons, mais là si c'est systématique, c'est ce qu'elle a l'air de décrire, et puis surtout apparemment elle prend zéro plaisir, donc là il faut quand même trouver une solution, c'est pas satisfaisant comme sexualité, on est d'accord.
En fait elle prend pas zéro plaisir, mais
bah,
plus
elle dit pas, voilà. J'aimerais prendre du plaisir, donc voilà. Semble-t-il ça lui paraît inconnu quand même.
C'est ça, c'est pas... bah, en tout cas elle a pas d'orgasme, ça c'est sûr, et le fait de simuler, le fait qu'elle est obligée de jouer un rôle, et plus elle joue ce rôle, alors de temps en temps, c'est une stimulation pour soi. On joue à être et puis tout d'un coup, on se prend au jeu d'être. Mais souvent, à force d'être pour l'autre, dans une simulation pour l'autre, qui du coup se dit « ça y est, elle a pris du plaisir, donc je peux éjaculer », et la relation se termine, ce qui clôt complètement la possibilité pour elle. D'où l'importance d'essayer quand même de s'offrir un peu de temps, le loisir d'être au rendez-vous de là où elle est.
Mais ça reste quelque chose d'assez inavouable, non ? Déjà, c'est dur de dire...
Quand... Je simule tout le temps, chérie.
Déjà, dire que le repas est fade, c'est difficile.
Alors,
dire que les rapports sexuels sont nuls, je pense que c'est... Qu'est-ce qu'on fait du coup ?
Je pense qu'on ne le fait pas
là,
comme
ça. Là, les problèmes qui arrivent.
Alors, je pense qu'on ne dit pas comme ça. On ne dit pas non plus que je simule tout
on
le temps.
On peut y mettre les formes, Jimmy, vous savez.
Ah, parce que le truc, ce n'est pas de se dire... Sinon, vous imaginez bien que si pendant tout un temps, on a joué un rôle, dire que
le passif, voilà. Non, dire depuis une semaine... Je simule.
Non, mais
c'est moins. Je sais pas. C'est moins pire, non, que dire.
Non,
j'ai toujours simulé.
Répondre,
non, parce que si c'est depuis une semaine, justement, il va s'interroger pourquoi depuis une semaine ça marche.
C'est pas une bonne idée. Okay.
Non, je pense qu'il faut dire que très souvent, je ne jouis pas et donc, du coup, je simule pour un peu lisser les choses, pour te rassurer, pour que ça te
vous
permette...
Vous le prendriez comment, Jimmy ?
C'est pas tellement mieux. Excusez-moi, Catherine, vous qui êtes la spécialiste.
Non,
là,
mais,
franchement,
mais si je n'ai pas toujours du plaisir, donc il y a des moments où je simule, mais je n'ai pas toujours de plaisir. Ne vois pas d'encombrement au fait que, quand je n'ai pas de plaisir, je ne fasse pas des trucs extraordinaires, parce qu'à cause de ça, ça me coince et ça m'empêche de profiter de ce que tu me fais ou de ce que tu m'apportes.
Qui a l'air génial. Non, c'est pas terrible non plus.
Non, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes. Ah, ça s'appelle de la simulation, ça, à nouveau.
Encore. Donc, non, régler le problème par le problème, c'est pas une solution.
Non, mais dire que le problème ne vient pas nécessairement de l'autre. Si ça vient de son mari parce qu'il fait des trucs qui lui plaisent pas, bah, il faut dire, moi, ce qui me plaît pas, c'est ça, et ce qui me plairait, c'est ça. Mais dans la mesure où c'est en elle que c'est bloqué, dire comme je suis très attentive à toujours te communiquer quelque chose d'assez positif, je me donne pas le droit de laisser tranquillement advenir. Or, tout ce que tu me fais est sans doute est formidable, mais n'amène pas à une lecture dans mon corps suffisamment jouissive parce que je suis pas assez abandonnée, puisque je suis dans le contrôle de ma simulation. Très donc bien. N'y vois pas d'encombrement et au contraire, redouble de créativité.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain, tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour Mélanie. Ils ont inventé des mots. Comment c'est ça fou ça. Mais oui, mais écoutez, Rabelais a enrichi notre langue de 500 mots environ. Frédéric Dard avec ses 100 Antonio aussi. Et vous avez décrypté un personnage que les jeunes aiment beaucoup.
Ben, moi, ma génération, c'était plutôt 100 Antonio, justement Stéphane. Mais comme vous avez pris le portrait, j'ai dû faire celui de Aya Nakamura. J'ai découvert à l'occasion. Eh bien,
vous avez tout compris.
Eh bien, j'ai pas tout compris, mais j'essaierai de vous le faire comprendre quand même.
Bon, ben nous, on espère qu'on va tout comprendre avec vous. On sera bien sûr à l'écoute avec Jimmy et vous aussi. Restez sur Europe 1.